Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec notre motarde en or, Patricia, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bon, Patricia, tu prépares déjà les vacances, la plage, la lecture aussi
La lecture, oui, mais je pense qu'on aurait pu le faire à tout moment de l'année, parler du livre de Jonathan Salomon. Jonathan qui est présent avec nous dans les studios.
Bonjour.
Un beau cadeau que tu nous fais, Jonathan.
Bah, avec grand plaisir, bonjour.
Donc, on va parler de ton livre, Récit d'un joueur itinérant, qui est paru donc en dernier trimestre de l'année 2015.
Juste avant Noël, un peu avant Noël.
Voilà.
Voilà, novembre.
Et donc, qui est aux éditions Hugo Doc.
Voilà.
Voilà.
Très bien. Ensuite, on va aussi parler balade et puis événements aussi pour ce mois de pour le mois de juin qui arrive.
Oui, après l'intensité de qu'on va là vous faire partager hein, à l'écoute de Jonathan, l'intensité sur l'aventure, les kilomètres à moto, et ben on va continuer de manière un tout petit peu plus mesurée, effectivement, avec ce que propose le motoclub du mois, que c'est le motoclub Les Kangourous, hein, qui est appelé aussi motoclub de la vallée du Loing. Et que l'on aura, donc à l'antenne.
Très bien. Bonjour Christine.
Bonjour, bonjour à vous tous.
Ça va très bien. Aujourd'hui, tu es venue en moto, Christine, aujourd'hui.
Oui,
et là, malheureusement, il pleut.
Et oui.
Voilà, bah, mais c'est aussi la moto. Malheureusement, on ne choisit pas. Le temps, c'est impondérable.
Et pas de chance, il y avait un accident sur l'autoroute.
Et il y avait un accident sur l'autoroute. Voilà,
voilà,
très bien.
Je suis arrivée juste pile poil.
Et puis, on salue aussi notre technicien émérite, Laurent, bonjour.
Bonjour, et c'est parti. Right there.
Le magazine de la moto, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30. Aujourd'hui avec notre motarde en or, Patricia. On parle lecture.
Oui,
avec Jonathan.
Voilà, et Patricia commence fort parce que déjà, elle déforme le nom de famille de son invité. Donc, c'est bien Jonathan Salamon. Et on va corriger sur toutes les publications qu'on a faites pour annoncer ta présence. Donc, Jonathan, donc, auteur de récits d'un joueur itinérant, c'est un livre très dense que je trouve très riche également. Et pour plus de 400 pages avec de nombreuses photographies.
Il ne raconte que la moitié de mon voyage, en fait.
Voilà. Et donc, on pourra en parler largement pendant toute l'émission. Mm-hmm. Et malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Donc, Jonathan, ce que je te propose...
Ça commence bien.
C'est la grosse frustration parce qu'on a un sommaire chargé. On ne vous l'a pas détaillé tout à l'heure, mais il est très chargé. Et donc, ce que je te propose, c'est qu'on le fasse en trois parties. Mm-hmm. On va parler donc, du livre, du comment il s'est fait. La deuxième partie, quand on se retrouvera après la pause musicale, eh bien, ce sera pour parler plus de la moto. Mmh. Et ensuite, j'irai un petit peu les conclusions que tu as pu tirer de cette expérience très riche sur tous les plans, donc, comme je disais.
Super.
Donc, ton livre, il est issu d'un blog qui a eu beaucoup de succès.
Ouais. Le World Poker Trip, ça s'appelait. Mais bon, avant d'être un livre, avant d'être un blog, c'est surtout un voyage, quoi.
Voilà.
C'est un récit de voyage, c'est une sorte de journal intime dans lequel je racontais un peu tout ce qui m'était arrivé pendant les 2 ans et demi durant lesquels j'ai traversé l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale à moto.
Voilà. Et cet itinéraire, il est quand même hors du commun. Parce que tu avais déjà voyagé auparavant.
Ouais, beaucoup. Hein,
voilà,
beaucoup,
tu dis, t'as globalement 7 ans à peu près où tu avais voyagé, mais c'était pas du tout dans les mêmes conditions.
Non, en fait, j'avais beaucoup voyagé en stop, j'avais beaucoup voyagé en bus, je voyageais à pied, j'étais un baroudeur, quoi. Mais en moto, jamais. J'avais jamais conduit une moto.
Et surtout, parce que, a priori, tu ne pouvais pas savoir que tu allais rencontrer la moto, pendant ton voyage. Hein. Donc, au départ, dans l'idée que tu avais, c'était, moi, je l'ai lu comme ça, une volonté aussi de rupture des amarres.
Oui. En fait, j'étais architecte, j'avais 25 ans. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un burn-out. Donc, j'étais architecte dans le sud de la France et j'ai eu un patron qui m'a un peu mis une très, très, très grosse pression à l'époque. Et moi j'ai fait mon burn-out et en gros c'est posé la question de qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Est-ce que je continue à travailler comme architecte, j'étais architecte, ou bien est-ce que je fais enfin le grand voyage qui me fait rêver depuis que j'ai 18 ans et que j'ai commencé à voyager, à savoir le tour du monde. Et du coup je me suis rendu compte que j'avais 25 ans, que j'étais célibataire, que j'étais au chômage, donc c'était le moment ou jamais, quoi, pour partir. Et
donc,
je suis parti.
Voilà, partir pour un long voyage quand on est au chômage, il faut pouvoir le financer, son voyage.
J'avais la chance, entre guillemets, à l'époque, d'être passionné de poker.
Ouais.
En fait, j'avais toujours. C'était aussi un des trucs qui me trottait dans la tête depuis très longtemps. C'est-à-dire que j'adorais voyager, mais à peu près à la même époque, j'avais commencé à jouer au poker. Et j'avais toujours été un passionné de poker. Et je me suis demandé si je pouvais pas essayer de financer mon voyage grâce au poker. Et en fait, c'est parti un peu d'une sorte de challenge personnel où je pensais même pas, en fait, pouvoir financer un voyage comme ça. Et j'ai commencé à jouer et je me suis rendu compte que ça marchait bien. Et je me suis dit, on y va, soyons fous et faisons-le. Quoi.
Tu gagnais ?
Avant de commencer ce voyage, j'étais juste un passionné, donc je m'étais acheté un téléphone de temps en temps, des chaussures, enfin rien d'exceptionnel. Mais au moment, en fait, dans les 4 mois qui ont précédé le voyage, j'ai commencé à jouer un peu plus sérieusement, intensément, un peu de manière professionnelle, on va dire, et là j'ai commencé à gagner pas mal. Et...
En gros, t'as mis de l'argent sur la table.
Pour les gens qui ne connaissent rien au poker ou qui en ont une image assez classique, c'est que on découvre vraiment les côtés techniques et donc effectivement aussi le travail, énormément bossé. Et tu parles de l'importance aussi actuellement d'Internet. Internet a été important pendant ton voyage, mais aussi quand tu évoques le poker.
Dans l'apprentissage.
Voilà, dans l'apprentissage. Ouais.
Moi, j'ai appris à jouer sur Internet. En fait. Bon, j'ai appris à jouer à la fois sur Internet et sur les tables réelles. C'est une sorte d'apprentissage parallèle. Sur Internet, comme on n'a pas de joueurs en face à face sur Internet, donc on est obligé d'apprendre un peu les mathématiques, les statistiques, la tactique pure, quoi. Et puis en live, c'est-à-dire sur des tables réelles, comme on affronte des vrais joueurs en chair et en os, on apprend plus le côté psychologique, le côté
ce qu'on appelle
les tels, c'est-à-dire le langage corporel, c'est-à-dire que dit le corps, que ne dit pas la voix. Et voilà, donc il y a pas mal d'aspects. Le poker, c'est un jeu qui a plusieurs dimensions et qui sont assez intéressantes à travailler, quoi. Et qui peuvent aider un voyage aussi, d'ailleurs.
Voilà. Donc un des éléments qui me fait dire que ton livre est extrêmement riche. Bon, pour les gens qui ne sont pas passionnés de poker et qui s'abarberaient, j'irais, on peut zapper hein, ces passages-là.
Ouais, j'ai mis ça en bleu, donc voilà, pour les gens que le poker saoule, ils peuvent vite passer à la suite.
Oui, il y a certaines parties qui sont plus ou moins accessibles, parce que parfois c'est vrai que c'est très technique. Alors c'est intéressant parce que on a tout, je dirais, le glossaire, un peu les termes, ce que ça veut dire. Ouais. Donc,
moi, j'essaie de rester vulgarisateur, quoi. J'ai vraiment, si j'avais voulu vraiment parler comme un joueur de poker pro,
on n'aurait rien compris.
Ouais, vraiment.
Mais c'est comme vulgarisateur, c'est réussi aussi. Et donc Internet, c'est aussi très important pour les contacts. Donc tu évoques ta façon de voyager. Mm-hmm. Tu as recours au Couchsurfing.
Ouais, Couchsurfing. C'est un site Internet que j'ai commencé à utiliser quand j'ai commencé à voyager, donc il y a 10 ans. Et c'est une sorte de Facebook pour les voyageurs dans lesquels les gens s'inscrivent et ils disent par exemple, je vais à Lima la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent m'accueillir ou bien m'accueillir chez eux, m'héberger, ou bien tout simplement me proposer de voir la ville ou d'aller boire un verre ou des choses comme ça, quoi. Et moi, j'utilise ça depuis toujours, en fait. Et ça a révolutionné ma manière de voyager, puisque en gros, je vais plus à l'hôtel. Pendant 2 ans et demi, j'ai dû aller à l'hôtel peut-être deux mois ou trois mois sur 2 ans et demi, et le reste du temps, j'étais chez l'habitant. Et ce qui est génial, c'est qu'un jour, on est chez un étudiant, le lendemain, on est chez un entrepreneur, le surlendemain, on est dans une famille. Enfin, bon, à chaque fois, on est chez des gens très très différents, et c'est vraiment le voyage à l'intérieur de la culture, enfin via les habitants, quoi. Et moi, je fais plus que ça, en fait. J'adore ça.
C'était amené à vraiment la rencontre d'une richesse humaine.
Ah bah oui, toute la sociologie sud-américaine, voilà, je les ai tous rencontrés. Pas tous, non, mais voilà, j'ai vraiment rencontré un vaste éventail de personnes, quoi.
Ce que je te propose, Jonathan, c'est qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Oui.
Thank you. There's a high wind blowing across the mountain. It's shaking and it's trembling through the pines. Well, you ought to take the shelter of my cabin, little girl, cause it's going to be raining outside. There's a dark cloud rolling in, they're covering up the sky. There's a dark cloud rolling in, they're covering up the sky. And if the stars were the windows of the angel, all backlit by the glow of heaven's light, then tonight I believe they're drawing the curtain, they're covering their eyes. Cause there's a high wind blowing across the mountain. It's shaking and it's trembling through the pines. Well, you ought to take the shelter of my cabin, little girl, cause it's going to be raining outside. Well, it's going to be raining outside. Well, it's going to be raining outside.
Le magazine de la moto et des motards, c'est sur Campus, c'est de 11h à 12h30 tous les dimanches. Voilà. Bah c'est Jonathan, hein, très bon joueur de poker, mais au micro, un peu moins bon quand même. Oh. Non, non, excellent au micro. Ah, excellent, bien. Excellent. Ouais. On est, on boit tes paroles.
Ah, bah, voilà. C'est cool. Merci.
Et on retrouve donc le récit d'un joueur itinérant. Et là, on va direct parler de la moto.
Allez.
Allez. Donc, a priori, on rappelle, hein, tu n'avais pas dans l'idée.
Non, mais moi j'étais pas du tout un motard, quoi. J'avais jamais touché une moto de ma vie avant d'arriver au Paraguay, en l'occurrence.
C'est un coup de poker.
Donc,
un
vrai coup de poker. Il faut donc aussi dire que tu as débarqué à Rio.
Ouais.
Hein, tu es resté une certaine.
À la base, je voulais faire un tour du monde. Voilà. Donc à la base, mon plan, c'était j'ai un an, je fais un tour du monde, je le finance par le poker. Et j'arrive à Rio et bon, j'avais envie de voyager comme j'avais toujours voyagé, c'est-à-dire en bus, en autostop, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en fait, le poker, c'est vraiment très 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 bien passé au Brésil. J'ai gagné pas mal d'argent, j'étais content, j'étais heureux. Et je suis arrivé au Paraguay et j'avais pour dire les chiffres, j'avais 2 500 $ dans mon sac. Et le Paraguay, c'est un pays qui est un peu limite, quoi. C'est un tout petit pays qui est enclavé entre le Brésil, l'Argentine et c'était quoi le troisième, la Bolivie. Et c'est un pays dans lequel on n'a pas trop envie d'avoir beaucoup d'argent sur soi, quoi. Et du coup, j'avais envie de dépenser cet argent et je suis arrivé chez mon coach surfeur à l'époque et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des motos partout au Paraguay. Et là, l'idée a commencé à germer. J'ai demandé ça coûte combien une moto. Il m'a fait à peu près 1 000 $. Là, j'ai fait sérieux. Et en fait, d'un coup, je me suis rendu compte que c'était rigolo, quoi. Et du coup, je suis parti avec Richard, il s'appelait. On est parti au magasin de moto et puis j'ai acheté une moto.
C'était quoi?
C'était une Leopard YES 150cc.
C'est une moto
chinoise. C'est que cette moto.
C'était une moto, c'était la moto de là-bas, quoi. C'était
même
là,
moi, ouais. Je connais pas.
Mais, ah ouais, c'est, déjà, c'est une chinoise, alors, inconnue, quoi.
Pour évoquer un petit peu les caractéristiques techniques de cette moto, ouais. Dis le nom que tu lui as donné d'emblée.
Elle s'appelait Parkinson. Parce que dès qu'elle dépassait les 40-50 km/h, elle tremblait plus possible, quoi. C'était. En vrai, si on parle d'un point de vue de motard un peu sérieux, c'était un très 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 mauvais choix de moto. Parce que c'était vraiment pas une moto faite pour voyager, quoi. Mais bon, en même temps, comme je connaissais rien en moto, c'est pour ça que j'y suis allé un peu naïvement, ouais. Comme ça. Mais en même temps, c'était une super idée parce que elle avait plein de problèmes. Pendant les 2000 premiers kilomètres, en fait, tous les 200 kilomètres, j'avais une panne.
Perdais régulièrement quelque chose.
Je perdais un boulot, je perdais un réservoir qui commençait à fuir, je sais pas quoi. Il m'arrivait tous les 200 kilomètres, sérieusement. Et du coup, j'avais plein de problèmes et du coup j'étais tout le temps arrêté au milieu de nulle part et je rencontrais des gens.
Voilà, c'est...
Et j'étais hébergé. Et genre, par exemple, en Argentine, c'était à peu près à 2-3 semaines de voyage avec la moto. J'ai commencé à avoir une fuite d'essence dans mon réservoir. J'étais au milieu de rien du tout, quoi. J'avais passé le dernier village depuis une demi-heure et j'étais dans la merde, quoi. Et du coup, j'ai dû vraiment en urgence revenir sur mes pas. Je suis arrivé dans un bled perdu. Et j'ai rencontré un mec qui s'appelait Franco et qui, en fait, m'a hébergé pendant une semaine dans sa famille, etc. Et c'était génial, quoi. J'ai rencontré sa famille et, en fait, j'ai eu de la chance. C'était un Syrien qui vivait en Argentine et qui était super sympa. Et, en fait, tout le début de mon voyage, toutes les galères que j'ai avec ma moto, ça a toujours été une merveilleuse opportunité pour rencontrer des locaux, quoi. Et donc, il y avait le couchsurfing, mais il y avait aussi c'est la moto qui me permettait également de rencontrer plein de monde, quoi.
Et tu as fait quand même beaucoup de kilomètres. En moto.
En tout, ouais. En fait, je sais pas exactement parce que mon compteur aussi est mort. Mais en gros, j'ai dû faire à peu près 40 000 km sur deux motos.
À évaluer,
sur deux motos.
Parce que
la première est morte au bout de 20 000 km. À peu près.
Alors, voilà. Ce qui est étonnant, effectivement, c'est que tu n'avais pas ton permis, bien sûr.
Ouais.
Et voilà. Que,
tu roulais sans permis.
La façon de le passer est assez. En fait, il faut remplir des formulaires.
Attends, mais c'est incroyable. En fait. Donc j'achète ma moto et je sais pas la conduire. Donc parce que voilà, je sais pas la conduire. Donc c'est le vendeur qui me raccompagne chez mon hôte et il commence à me demander mais qu'est-ce que tu fous là, pourquoi tu sais pas conduire la moto que tu viens d'acheter et tout. Et voilà, je lui explique un peu mon voyage et donc il dit on va faire un permis, quoi. Et donc on est allé à la mairie et le Paraguay, donc surtout la ville où j'étais, Ciudad del Este, qui est la ville frontière, la triple frontière Paraguay, Argentine. Brésil, c'est les villes frontières, déjà c'est déjà un peu chaud et c'est un peu limite, quoi, mais une triple frontière encore plus en Amérique du Sud, on peut tout s'acheter là-bas, on peut s'acheter tout et du coup on peut acheter des papiers aussi,
en gros, quoi. On passe pas son permis, on fait un permis.
Je suis allé à la mairie et ce qui est incroyable c'est que c'est légal, hein. Je suis allé à la mairie, j'ai donné $15, j'ai donné ma carte de groupe sanguin. Et au cas où. et ils m'ont délivré un permis paraguayen valable pour un an en Amérique du Sud. Voilà. Et après, j'en ai fait un deuxième au Nicaragua. Et là, j'ai dû payer un peu plus cher. Mais voilà. voilà. Et donc, du coup, j'avais mon permis. Je ne savais pas conduire. Il n'y a même pas un examen. Il ne te pose même pas une question, quoi.
Mais
ils te demandent même pas.
Christine, c'est le pied, ça. Hein.
Mais en même temps, ça explique aussi pourquoi le Paraguay, c'est vraiment un pays hyper dangereux au niveau circulation, quoi. Enfin, mais après avoir conduit au Paraguay, après avoir appris au Paraguay, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais conduire partout, quoi. C'est vraiment une bonne école de la moto, au final, quoi. Donc voilà. Mais j'ai un apprentissage qui est purement personnel, au final, quoi. J'ai appris en roulant, quoi. Voilà.
Mais ce qu'il y a, c'est dès que tu as commencé à rouler avec cette moto, ça a été le choc.
Ah mais c'était génial, c'était je m'attendais pas à des sensations aussi puissantes, quoi. C'était, moi, je racontais ça dans le bouquin, et c'est un peu dur, en fait, d'expliquer ça. Vocalement, mais c'est des sensations qui sont, c'est la liberté, quoi. Moi, je me rappelle, j'ai acheté la moto, donc j'attendais la plaque. Elle a mis 3 semaines à arriver et je regardais carnet de voyage tout le temps, quoi. Je regardais le tché, quoi, et je me disais c'est bientôt moi. Et en fait, c'est devenu moi, quoi. C'est-à-dire que je suis sur la moto, je suis à Asunción, il est 2h du mat, je suis tout seul sur le périph qui est vide. Et en tant que voyageur, en plus, c'est un sentiment de liberté incroyable, quoi. Et ce qui est magnifique avec la moto, c'est qu'on part quand on veut, on s'arrête quand on veut, on dort où on veut. J'avais ma tente. Et du coup, voilà, quoi. J'étais heureux, quoi. J'étais sur ma moto, j'étais heureux. Et j'avais jamais connu ça, quoi. J'avais connu la liberté du voyageur, mais là, c'est vraiment une dimension encore plus grande, quoi. C'est encore plus puissant, encore plus intense.
Et au fil des pages, on voit que cette moto devient vraiment une compagne.
Ouais.
Et elle est personnifiée.
Ma moto.
Elle a son nom, mais aussi elle a son âme.
Ouais, elle a son âme et elle devient ma copine, quoi. C'est devenu ma copine. C'est-à-dire que je la tutoie, enfin, je lui parle et je parle d'elle comme. Voilà, c'est ma copine, quoi. Et quand elle est morte, dans le nord du Pérou, en plein désert, d'ailleurs. D'un coup, en fait, dans le nord du Pérou, elle a claqué. Et j'ai dû la pousser et j'avais trop peur parce qu'il était genre 4h et le soleil commençait à baisser et j'étais dans le désert, quoi. Et j'ai eu de la chance quand même parce que je l'ai poussée, je suis arrivé chez un paysan, il m'a aidé, il me l'a réparé pour vite fait avec des fils de fer pour que j'arrive à la ville suivante. Mais à la ville suivante, j'ai dû l'abandonner, quoi, parce qu'en gros, j'étais en le nord du Pérou et il y avait les montagnes d'Équateur qui m'attendaient. Et je me voyais vraiment pas conduire en Équateur.
Tu lui as tiré une balle dans le phare?
Non, non. j'ai pris un couteau, j'ai dévissé le compteur kilométrique que j'ai mis dans mon sac, je l'ai gardé.
Adieu, vieux.
Les 16 298 km de Parkinson.
Adieu, vieux cheval.
Et en fait, je l'ai offerte à la fille qui m'avait hébergé dans cette ville-là, avec qui j'ai une petite histoire d'amour. C'était rigolo. Et du coup, c'était mon cadeau d'adieu.
T'as plein de trucs, hein.
Ah, bah, il s'est passé plein de trucs.
Poker, la moto, histoire d'amour. C'est vrai, il y a de quoi faire un bouquin.
Bah, voilà, il y a un bouquin, ouais. Et il y aura peut-être un film, hein, je vois d'ailleurs.
Il y a un film.
On est en train de discuter avec Derek.
Et la reprise des transports en commun t'a remotivé rapidement.
Alors, du coup, j'ai lâché ma moto dans le nord du Pérou et je me suis dit, bon, je vais continuer en bus. Et après avoir fait un an et demi de moto, le bus, c'était juste impossible, quoi. J'ai tenu 2 semaines et puis 2 semaines plus tard, j'avais pas l'argent pour le faire, mais je me suis acheté ma deuxième moto qui s'appelait Vegas et qui en gros était destinée à arriver à Las Vegas, quoi.
Mais de la même manière, c'était le flash. C'est-à-dire que tu n'as pas cherché plus ce côté...
C'était un peu différent, technique. En fait. Ouais. La première moto Parkinson, elle était un peu branlante, elle était de mauvaise qualité, etc. C'était une moto... C'était la moto du peuple, en fait. C'était la moto du peuple paraguayen. Et j'ai tout de suite flashé là-dessus. Alors qu'en Équateur, j'étais un peu plus... je commençais à bien marcher, j'avais mon blog, je commençais à avoir du succès. J'étais un peu plus vaniteux, on va dire, et je me suis acheté une belle moto.
Ah oui, là, c'est une belle moto. Mais en
c'est
fait, ce que moto. Je veux
c'est
dire,
200,
c'est...
C'est pas non plus un truc de ouf. Hein,
non, non, mais... Mais d'emblée, tu l'as vu
sur son piédestal.
Et voilà, c'est ça. Et elle était belle. C'est surtout ça qui t'a déterminé.
Ah, mais moi, comme je dis, je suis pas un motard à la base. Donc moi, mes choix, ils se font sur l'esthétique, quoi. Et voilà, quoi. Voilà, des choix esthétiques. Et je l'ai trouvée belle, je l'ai achetée, quoi.
Et reparti pour la route. On fait une petite pause et on continue juste après.
Ouais. We'll be right back.
story. Let's fool around while I get over mine. Allow me to pay my respect, and I'll be on my way. 'Cause all days are numbered. Don't need to fill me in on the how and why. I'll see it when it's time to check into the great rebel devil in the sky. The great rebel devil in the sky. Great rebel devil.
La moto, c'est tous les dimanches, 11h, 12h30. Aujourd'hui, on est accroché, hein, vraiment, aux paroles de Jonathan, patricien. On rappelle, hein, il a écrit un gros bouquin, parce qu'on l'a sur la table, hein,
un
400
bon
pages, hein,
un
beau pavé. Hein, ouais. Ça s'appelle Récit d'un joueur itinérant.
Que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies.
Alors, joueur de poker, motard.
Architecte. Barman.
Barman, voilà, excellent, ouais, excellent. Ouais.
Tout ce que tu es, écris-tu, et tous les choix importants que tu as fait depuis cette expérience ont été la conséquence de cette unique shoot,
unique shoot de liberté que voilà. J'ai vécu à Asunción.
Voilà, au guidon de Parkinson.
C'est un des moments les plus forts, les plus fous du voyage. Quoi. J'avais acheté ma moto. Mais je pouvais pas la conduire et j'avais des grosses galères de plaques d'immatriculation et il fallait aller à Asunción. Enfin, je l'avais acheté à Ciudad del Este, il fallait aller à Asunción, il fallait récupérer. Bon, c'était un gros bordel. Et enfin, au bout de 3 semaines, je récupère ma plaque d'immatriculation. Donc, je fais mes adieux à tout le monde et j'avais rencontré une fille à Asunción. Et j'étais triste. Et du coup, il était 2h du matin, on était dimanche soir, lundi matin, du coup, à 2h du mat. Et je venais de faire mes adieux à cette fille, j'étais triste. Et en fait, le lendemain, j'ai parti en Argentine. J'avais fait mes adieux à tout le monde. Et Asunción était complètement vide puisqu'il était super tôt. Et Asunción, ce qui est incroyable, c'est que c'est une ville qui est hyper congestionnée tout le temps, qui est blindée de bus, etc. C'est vraiment le chaos là-bas. Et là, j'étais sur ma moto avec mon sac sur le dos. Et il n'y avait personne dans les rues et il y avait un truc un peu magique à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que j'avais enfin laissé tout ce qui me pesait depuis... Enfin, qui pesait tout ce que j'avais... Tous ceux que j'avais rencontrés au Paraguay. Et je me rendais compte que ça faisait 2 mois que j'étais parti, que j'étais plus vraiment architecte, c'était fini. Et que j'avais enfin lâché mes bagages de la France, psychologiquement en tout cas. Et que le poker, ça marchait bien et ça m'avait donné une sorte de liberté financière, on va dire. J'avais confiance, on va dire, en l'avenir. Et j'avais ma moto qui me permettait d'aller où je veux, quand je voulais. Et en fait, j'étais complètement libre, quoi. Et c'est pas juste des paroles, mais la liberté, je l'ai ressenti physiquement dans mon corps à ce moment-là, 2h du matin, dans la nuit d'Asunción. J'ai ressenti une sorte de puissance incroyable dans mon ventre, dans ma tête, dans tout le corps. J'en avais des frissons, quoi. J'en avais des frissons, c'était magnifique. Et en fait, une fois que j'ai connu ça, tout le reste du voyage, c'est un truc qui m'a suivi, quoi. C'est la liberté. C'est là que je me suis rendu compte que la moto et tout ce voyage-là allaient me rendre libre, quoi. Tu vois.
Et voilà. Cette liberté, on la ressent à te lire au travers des descriptions que tu fais des routes que tu suis, mm-hmm. bien que certaines réalités matérielles t'empèrent un peu.
Ah bah ouais, au début je suis comme un fou quoi. Ouais. Et puis justement le lendemain je pars d'Asunción et voilà, j'ai la musique dans les oreilles, il fait beau, je suis en short, alors vraiment aucune protection, j'étais vraiment naïf quoi, complètement naïf à l'époque. Et puis je suis heureux et puis à quelques kilomètres de la frontière je me prends une bordure et je chute quoi. Et c'est la toute première chute du voyage, quoi. Il y en a une dizaine.
Et ensuite, ton évolution de motard, hein, que tu cherches à t'équiper davantage,
ouais,
s'il fait chaud, tu dis bon, je mets mes gants, surtout quand
ouais.
tu.
Ah, les gants, ouais. En fait, j'ai appris à mes dépens, quoi, à mes blessures, à mes cicatrices, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au bout d'un moment, quand on s'éclate le genou, et quand on saigne partout, je veux dire, on se rend compte qu'il faut se protéger, quoi. Et malgré. En fait, là-bas, c'est assez étrange parce que, dans les pays les moins développés, en fait, Bolivie, Paraguay, etc., Il y a des mecs qui roulent sans casque, il y a des mecs qui roulent en tong, et c'est presque cool en fait. Et c'est trop bizarre quoi. Et genre ouais, c'est cool, on roule, on se protège pas. Mais et du coup quand on roule équipé, on se fait remarquer. Mais en même temps, il faut choisir quoi. Soit on se fait tuer. Soit...
Ouais. C'est une poker.
Et en fait, ouais, hein, voilà.
Mais c'est un peu risqué comme coup de poker.
Tu dis ouais, la récompense est, voilà, est proportionnelle au risque. Ouais. Et tu te réfères justement au poker. Hein. Ouais. Mais en même temps, tu l'appliques à l'aventure, tu l'appliques
à la vie en général. Quoi.
Voilà, à la vie en général. Et tu dis prenez des risques, sortez des sentiers battus, mais en même temps, prenez des risques mesurés.
Bah, selon vos, comment dire, selon votre confiance, on va dire, et selon votre connaissance. C'est-à-dire que je n'encourage pas les gens à prendre des risques, hein, mais j'ai juste remarqué, en tout cas au poker et de plus en plus dans la vie, que on n'a pas de récompense sans risque, en fait, tout simplement. Et qu'à un moment, si on veut obtenir de la liberté, de la beauté, de l'amour, je sais pas quoi, bah, il faut oser aller là où on n'a pas l'habitude d'aller, quoi. Et au poker, ça s'appelle le risk-reward. C'est-à-dire qu'il y a une relation très directe et très mathématique entre le, comment dire, l'argent investi et le risque que représente cet argent et la récompense qui peut être espérée. C'est-à-dire que plus on prend des risques, plus on se rend disponible à une grande amplitude de gains, mais aussi bien dans l'amplitude positive que négative. C'est-à-dire que on prend des risques, on va pouvoir gagner beaucoup ou perdre beaucoup. Et ça veut dire qu'il faut être, quand on prend un risque, il faut être conscient qu'on peut on va avoir une récompense proportionnelle, mais qui va être aussi bien positive que négative. Et la vie, c'est pareil pour moi. C'est-à-dire qu'on prend le risque et on est conscient que, ok, on peut avoir des récompenses, c'est génial, mais on peut aussi se faire avoir aussi. Donc il faut le faire en connaissance de cause.
Et au travers de ce voyage à moto, mais aussi lors des parties de poker, tu as pris quand même beaucoup de risques. Ouais. Et tu dis, j'ai survécu.
Bah, j'ai survécu et je suis devenu plus fort, on va dire, quoi. Voilà. Mais ouais, j'en ai pris, ouais. C'est vrai que j'étais j'étais inconscient. Et en fait, c'était aussi ma naïveté, je crois, qui m'a rendu qui me faisait prendre tellement de risques, parce que en moto, bon voilà, après coup, je me dis j'étais complètement fou, quoi. Je roulais sans gants, enfin j'avais mon casque, quoi. En gros, j'avais un casque de mauvaise qualité, chinois, paraguayen, voilà. Et j'ai eu vraiment de la chance au début, mais c'est surtout au poker en fait que j'ai pris beaucoup de risques, parce que j'allais jouer dans des parties clandestine en fait, parce qu'en fait le poker est légal en Argentine, il est légal au Brésil, il est légal en Colombie par exemple, mais il n'est pas légal en Équateur, il n'est pas légal en Bolivie, dans certaines parties de la Bolivie, enfin en Bolivie en général, et puis en Amérique centrale non plus, il n'est pas légal. Et moi j'avais un blog à nourrir et puis j'avais aussi envie de vivre un truc intense, quoi. Donc je me suis dit, il faut que je joue en poker quand même. Et je suis arrivé dans des parties, dans des tripots, ouais, dégueulasses.
Ouais, alors voilà, moi j'ai des images de film. Alors c'est, une salle enfumée,
c'est
5-6 mecs qui sont autour d'une table avec un revolver sur la...
je l'ai eu celle-là, le flingue.
Le flingue à droite ou à gauche.
Dans le nord du Pérou, j'ai eu le flingue. Mais j'ai tout eu.
La bouteille de whisky qui est sur la table et voilà.
Et plus qu'à finir.
Et plus c'est fini. C'est ça.
Mais il y a vraiment matière à scénario, en
alors
fait.
C'est un scénario de film, alors.
Ouais. Juste pour raconter, je la raconte souvent, celle-là, mais c'est la plus folle, quoi. Dans le nord du Pérou, j'arrive dans un billard. On m'a renseigné, on m'a dit là il y a du poker. J'arrive dans un billard et dans l'arrière-salle du billard, il y a des caméras qui filment l'intérieur, donc je vois la salle avant de rentrer et c'est une salle cachée derrière le billard, quoi. Et à l'intérieur, il devait être 1h30 du matin, quoi. Donc c'était la nuit, etc. J'arrive, 5 Péruviens bourrus, vraiment les gens, heureusement, je suis introduit. C'est-à-dire que j'avais déjà fait plusieurs erreurs avant et j'avais compris que l'erreur de base, c'est de ne pas être introduit. Il faut toujours avoir un contact direct fiable. Donc j'ai mon contact direct fiable qui m'introduit, parce que jamais j'aurais voulu rentrer tout seul sans contact dans ce truc-là. Et les mecs sont... Voilà, on est dans le nord du Pérou, en plus dans une région, on est vraiment en dehors des sentiers battus, on n'est pas dans les trucs touristiques, quoi. Et en fait, donc il y a les caméras qui filment la table, qui filment le billard et qui filment l'extérieur. À l'extérieur, il y a le parking, et dans le parking, il y a des motos. Et il est genre 3h du mat, et la partie tourne tranquillement, voilà, j'ai gagné un peu d'argent, je suis content. Et à un moment, on voit une silhouette s'approcher des motos. Et les mecs se rendent compte tout de suite. Et ils sont vifs là-bas, ils sont vivos, on appelle ça. Ils sont vigilants. C'est le même que la dernière fois. Et apparemment, ils le reconnaissent, quoi. C'est un récidiviste. Et ils font, ouais, c'est le même. Et on est en pleine partie, on est en train de jouer et tout. Et d'un coup, tous les cinq, ils se lèvent, ils soulèvent le grillage, et j'entends j'entends une détonation, quoi. Et au début, je me dis, tiens, c'est un pétard, mais en même temps, un pétard à 3h du mat', ça n'existe pas, quoi. Et ouais, et ils sortent, et moi j'ai peur, moi je reste à l'intérieur, quoi. Et au bout de 2-3 minutes, j'ose sortir quand même, et je vois les mecs revenir en sueur, tout transpirant et tout, et épuisé. Et ils font, putain, on l'a raté, quoi.
Ah, donc c'est pas plus efficace qu'un antivol.
Non. Ils l'ont raté, et le mec, il a son flingue dans la main, et puis il fait, bon, on y retourne, on va jouer, il pose son flingue sur la table, et il fait, on en était où? Et on continue à jouer, et le mec, il fait, ouais, j'ai plus l'âge pour ces conneries. Enfin, voilà, quoi. En gros, il commence à parler. C'était un truc de ouf. Et puis, une heure plus tard, j'ai dit, bon, messieurs, c'était très sympa. Je vais quand même y aller, quoi.
Mais voilà. Tout ça, vous allez le retrouver dans le livre. Ouais. Parce que je vous incite vraiment à le lire. C'est très dépaysant, c'est très intéressant. Ça fait penser. Et on aurait des heures pour.
Moi, j'en parle pendant des heures, moi, s'il le faut.
Mais il va falloir. Jonathan, ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une émission 8 juste heures. Consacrée. Voilà. Ouais. On le passera pendant les vacances. Ouais. Voilà. Bonne lecture à tous. Jonathan Salamon, récit d'un joueur itinérant.
Merci. We'll be right back.
voyage et rythme soutenu, nous avons au téléphone le motoclub Les Kangourous, Patricia.
Oui, et Jean-Jacques du motoclub des Kangourous pour nous parler de ce motoclub très actif qui est dans le département 77. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Patricia.
Voilà, donc motoclub Les Kangourous, mais il s'appelle aussi motoclub de la Vallée du Loing.
On va dire que son vrai nom, en fait, c'est Motoclub de la Vallée du Loing. Et comme notre logo est un kangourou, on nous connaît mieux sous le nom du Motoclub des Kangourous. Voilà.
C'est un motoclub très actif, hein, Jean-Jacques.
Bah oui, puisque c'est un peu le but quand même, parce que c'est pas le tout de former une association et de la laisser un petit peu végéter. Chez nous, ça a été... L'association a été créée pour organiser des choses et c'est ce qui se passe. Quoi. Donc tout le long de l'année, on essaye de faire pour le mieux.
Effectivement, quand on regarde le calendrier prévisionnel et qu'on voit, je dirais, la variété des propositions avec différents axes, il y a les balades, il y a les randonnées, il y a aussi une fête de la moto qui est prévue le 31 juillet.
Voilà, oui, c'est la 11e fête de la moto. Ce n'est pas notre 11e rassemblement, puisque à une époque, on avait aussi une fête américaine, mais qu'on a supprimée. On doit être sur une quinzaine de rassemblements, mais en tant que fête de la moto, ce sera cette année la 11e. Donc, c'est une journée qui sert à se retrouver entre clubs de la région et de partager... une balade le matin, un run où chaque année on compte entre 400 et 500 motos selon la météo. Et puis l'après-midi, il y a diverses animations avec notamment des concerts. Voilà quoi.
Parce que c'est très ouvert. En fait, effectivement, ça réunit toujours un grand nombre de motos parce que vous êtes très très accueillant dans le principe. Hein, tout un chacun peut devenir un kangourou ou dis-tu une kangourounette, à condition effectivement de répondre à un minimum de choses, mais essentielles, c'est-à-dire trois principes. Hein. Dis-nous quelles sont les conditions.
Nous en fait, c'est pas vraiment, on va pas dire, c'est pas non plus, c'est pas un supermarché où on vient en client. Il faut un petit peu s'investir dans le club. Il n'y a pas de restriction particulière, notamment au niveau de posséder telle ou telle marque de machine, d'avoir des catégories d'âge ou autre. Donc il suffit de venir là, de partager quoi et de participer à la vie du club quoi. Je dirais que c'est plutôt ça avant tout quoi.
Voilà, la participation et le partage.
Oui, puis aussi on veut aussi des gens qui comment on veut pas des kékés quoi, des gens qui viennent là, qui foutent le bazar, qui ont été ailleurs et qui veulent venir faire chez nous ce qu'il y avait ailleurs. C'est pas le but. Si on a créé notre association, c'est pour nous répondre à une certaine philosophie, une image qu'on se fait de la moto. C'est pas pour faire exactement ce qui se fait ailleurs. Autrement, nous, on n'aurait pas créé de club, on serait allé aussi dans un club ailleurs. Voilà.
Les sorties proposées sont très ouvertes et en plus, à part les randonnées où effectivement, c'est par exemple, il y a eu la randonnée dans les Hautes-Alpes qui a rencontré un succès complet.
Oui. Mitigé, puisqu'on a eu des petits problèmes avec le carburant et puis la météo, mais...
Oui, au niveau des inscriptions, c'était l'emballement.
Ben, en fait, toutes les randonnées se complètent quand on lance les inscriptions, on va dire en 3 semaines, un mois maximum, c'est complet, quoi. Donc, souvent, des gens se disent, on va attendre un petit peu pour savoir, etc., etc., mais malheureusement, souvent, ils se cassent le nez parce que ça va très vite. Ça va très vite à se remplir.
Voilà. Les balades que vous proposez sur place sont géniales parce que vous avez la chance d'être dans une région qui est magnifique.
Oui, on est au sud de Paris, on est à 80 km au sud de Paris, on est à la limite de la Bourgogne. Donc ça nous ouvre des perspectives assez importantes avec des routes très variées, bucoliques, viroleuses et puis vallonnées. Alors donc c'est un peu pour les motards, c'est un peu ce qu'on recherche quoi. Et puis on on a trois vallées. Nous, on est sur la vallée du Loing, la vallée du Lunin et la vallée de l'Orvanne. Et vraiment, c'est des paysans. Quand on vient de milieu urbain et qu'on arrive là, je veux dire, à 40 minutes de Paris, c'est complètement, ça change vraiment, quoi. C'est vraiment particulier. Ça vaut le coup de venir voir.
Et justement, ça vaut d'autant plus le coup que le 5 juin, le club propose la deuxième édition d'une journée 100% motarde.
Voilà, donc cette manifestation a été créée l'année passée à l'initiative d'une adhérente, un petit peu comme ça en discutant, elle dit ah, ça serait pas mal de faire une balade entre filles et tout. Donc on fait pas les trucs à l'arrache comme ça se fait sur Facebook, nous on organise, hein. Il y a des règles, on peut pas faire n'importe quoi. On fait pas un forum ou un groupe sur un réseau social et on lance pas un truc comme ça, une idée en l'air. Donc on l'a structuré, on a fait la première édition l'année passée, donc ça rencontrait un bon succès, hein, on va pas dire un énorme succès puisque c'était la première édition et puis que les filles ils étaient un petit peu timides à venir. Mais globalement, à la fin de la journée, toujours pareil, ils étaient super satisfaits et on redemandait à ce que ce soit organisé une nouvelle fois. Donc cette année, on a relancé cette manifestation. Donc les inscriptions rentrent tout doucement. Là, c'est encore ouvert jusqu'à la fin de cette semaine. On a prolongé un petit peu. Et puis, on souhaite une super météo pour passer une bonne journée ensemble, quoi.
Donc, lors de cette journée, sont proposées deux balades.
Oui.
De 93 km, globalement, 90 km.
C'est ça.
Et des routes très touristiques, hein, mêlant campagne et forêt.
Oui, campagne, la forêt Fontainebleau, et puis, comme je disais tout à l'heure, un petit peu dans les vallées là, environnantes, quoi. Et on se met, alors il y a un groupe de motards quand même, parce que 100% motardes, mais il y a aussi quand même des kangourous qui vont se mettre au service de ces dames.
Pour encadrer.
On va encadrer aussi, elles viennent, elles ne s'occupent de rien, on s'occupe de nous, préparer le repas, etc., l'accueil, petit déjeuner, etc.
Donc les passagères ne seront acceptées que derrière une pilote, hein.
Oui.
C'est que filles qui roulent.
C'est que des filles. Hein. Voilà.
La participation.
C'est l'occasion pour tout le monde à d'autres dates. Hein, où ça, là, il y a des balades dominicales où là, il n'y a aucun souci, tout le monde peut venir. Mais là, c'était pour marquer le coup, pour faire un truc. Donc voilà.
Voilà. Donc on va rappeler. La participation est modeste, hein, 20 euros par personne, oui. Tout est compris. Oui. Je ne parle pas des tarifs adhérents, hein, mais c'est ouvert à toutes. Donc on peut te contacter donc sur le site du motoclub Les Kangourous, hein, si on tape là, rien que ces mots ou motoclub de la vallée du Loing, on va avoir toutes les adresses utiles. Et dernière chose, Jean-Jacques, parce que sont les aléas du direct, il faut qu'on termine, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à cette balade. C'est un rendez-vous que le motoclub voudrait pérenniser pour les années à venir et voire élargir.
Bien oui, s'il y a la demande et que ça fonctionne, bien sûr c'est prévu que ça soit pérennisé, oui. Voire même peut-être le faire avec un accueil le samedi, faire un deal avec le camping du village pour que les gens qui viennent, enfin les filles qui viennent de loin puissent s'installer, faire tranquillement passer la soirée et puis faire cette journée comme ça le dimanche, quoi. Donc on est en train de voir ça.
Mais écoute, on va faire, on va insister sur ce point-là. Les filles, il faut y aller, il faut faire vivre cette manifestation très sympathique. Et toute l'équipe te dit un grand merci, Jean-Jacques, et te donne rendez-vous pour pouvoir évoquer justement un prochain événement du motoclub. À très bientôt.
Si, n'hésitez pas à me faire.
On le fera. Surtout pour le calendrier. Merci. Voilà. À bientôt. Au revoir. We'll be right back.
quelle émission aujourd'hui? Alors, franchement, alors on balade. On part en Amérique du Sud avec Jonathan. On part chez les kangourous au sud de Paris.
Et là on part
avec le motoclub du coin. C'est
oui,
ça
un peu plus proche de ouais. chez nous. Et le plaisir de pouvoir communiquer aussi autour d'une manifestation qui est en train de se préparer. Et nous avons David, le président des Bécanes du coin. Bonjour David.
Oui, bonjour à vous.
Voilà, donc David, c'est un gros stress hein, de préparer une telle manifestation que celle que vous prévoyez, donc les 13 et 14 juillet à Boué, dans l'Aisne, mais c'est assez proche de nous en fait.
Oui, on est proche de vous, on est à une heure de Valenciennes, vous voyez, on est à trois quarts d'heure de Maubeuge, on est à 45 minutes de Lens. On est à côté de Guise.
Voilà, donc pour situer, c'est très accessible. Et cette manifestation, le club, l'association la veut festive, que ce soit avec le maximum de gratuité pour les visiteurs.
Oui, bien sûr. Oui, bah nous, les Bécanes du coin, moi je suis fondateur, on a créé le motoclub au mois de mars avec ma femme, Laetitia, et deux autres amis, Pascal et Valentin. À ce jour, on est à 37 motos et 50 membres. Beaucoup de femmes de motards, si c'est vrai, ils ont pris la carte. Et nos manifs, bah, c'est des balades, la manif, et puis on fait nos fêtes. Alors donc, la fête de la moto, le 13 et 14 juillet. Et puis le programme, ben, c'est ouverture des portes à 18h. Pardon.
Oui, et il y aura beaucoup de choses. Mais en fait, on va revenir, hein, on reviendra oui. sur le programme. Oui. Mais actuellement, tu es en recherche de stands.
Oui, je suis à la recherche de stands de vêtements, blousons, casques. C'est très dur de trouver des stands pour venir chez nous, quoi. Oui.
Voilà, donc tu fais un appel pour que justement ça soit vraiment la fête à Boué, la fête pour tous les motards et motardes qui pourront y participer. Et donc tu demandes à ce que les gens puissent te contacter.
Oui.
Bien sûr,
on peut donner mon numéro de téléphone, c'est le 06 16 94 27 67. Il n'y a aucun souci, on peut me contacter pour venir mettre un stand. Et puis en plus, le stand, j'offre le repas du midi à le responsable ou à la responsable du stand, quoi.
Parce qu'il devrait y avoir des visiteurs, car là, vous assurez le maximum avec les animations, les concerts gratuits, la balade qui va être organisée, les camions décorés.
Oui, exactement. Voilà, on a un gros programme. Le 14 juillet, on fait une bourse moto de 9h à 17h, emplacement gratuit. Alors n'hésitez pas à me téléphoner aussi, parce que bon, les emplacements, ça va partir assez rapidement. À 8h, on fait le café plus un gâteau maison, on fait des sandwichs, on fait la buvette ouverte. À 9h, on fait les débuts d'exposition moto ancienne plus camion tuning personnalisé. À 10h, on fait la balade moto, donc 3€ par casque, 80 km de balade. Et puis pendant la balade, on sera escorté avec les camions décorés sur 20 km. On fait une surprise pendant la balade, on fait des cadeaux pendant la balade. Et puis après le retour de la balade, ça sera vers 11h30, 12h. Et restauration, buvette, tombola. À 13h, on fait des concerts scène ouverte. Là, c'est pareil, je lance un appel, il me manque un groupe, voire deux groupes, pour la scène ouverte. C'est-à-dire, la scène ouverte, les gars, ils montent sur une scène, c'est gratuit pour eux, c'est pour lancer des jeunes, lancer des groupes de rock ou n'importe quoi, des jeunes, des filles, ce qu'ils veulent monter sur la scène, quoi.
Bah, écoute, c'est avec un grand plaisir. Un grand plaisir, David, qu'on va relayer l'information en souhaitant que tu aies des personnes qui se manifestent très rapidement et que toutes ces bonnes volontés aboutissent à une très belle fête de la moto.
Mais je te remercie beaucoup, puis je vous souhaite un bon dimanche et puis une bonne fête à toutes les mamans.
Bon dimanche, David. Un grand merci. À très bientôt.
Merci. À bientôt. Au revoir.
magazine de la moto et des motards aussi, forcément. C'est tous les dimanches de 11h à 12h30. Patricia, nous avons Alain au téléphone.
Voilà, Alain Brocherie pour la troisième édition de la grande fête nationale de la moto X-Roster. Allô. Qui est à la page 29 de notre calendrier. Bonjour Alain, je rappelais juste, merci pour nous présenter donc ce rendez-vous. Je précisais qu'on l'avait en page 29 de notre calendrier annuel.
Merci, c'est gentil, bonjour à tous, quel générique dynamique.
Ah oui, et c'est la moto à 100%. Et donc, ça sera le cas aussi les 9 et 10 juillet prochains sur le circuit Carole.
Oui, exactement. Donc, il y a la troisième édition de la grande fête nationale de la moto avec ses courses un peu déjantées que sont le X-Roadster, qui est la seule course au monde ouverte au roadster à partir de 500 cm3 sur un circuit mixte où il y a du bitume, évidemment, un tronçon de sable, un tronçon de terre et un virage bitume qui va être volontairement mouillé par des rampes les rampes d'arrosage que l'on utilise au cinéma. Et il y a aussi le Supermod Games, c'est un supermotard. Pareil, c'est la première fois qu'un supermotard va utiliser un tracé de ce genre. Et puis il y a l'Extreme Bike qui là est ouverte aux sportives à partir de 600 cm3, où c'est également, chaque fois on dit c'est unique au monde, mais bon, bah, c'est vrai, donc on va pas le cacher ou le passer discrètement. C'est aussi la seule course de sportive au monde qui a lieu sur un circuit mixte avec de la terre, du bitume et du sable.
Alain, voilà. Il va y avoir bien sûr des pilotes prestigieux, mais c'est ouvert à tous les pilotes.
Oui, c'est ouvert à tous les pilotes puisque les licences à la manifestation, ce qu'on appelait avant les licences à la journée, sont ouvertes. Et d'ailleurs, c'est un peu le but. Bon, il y a des pilotes prestigieux, mais le but aussi, c'est on s'aperçoit dans les engagements que nous avons plus de 40% de pilotes engagés qui s'engagent à la licence à la journée. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre eux, c'est la première course qu'ils font, ou alors ils font ça que de façon isolée. Et ce qui prouve bien l'intérêt. L'intérêt, parce que les stars sont une chose, évidemment c'est important, mais c'est aussi ouvert aux pilotes qui ont tout simplement envie de s'amuser, de passer un bon moment, parce que en plus des courses, il y a tout un esprit festif pour les spectateurs, où tous les pilotes amènent des mascottes, tous les pilotes décorent leurs tentes, il y a des groupes folkloriques, il y a la cérémonie d'ouverture le samedi, la cérémonie officielle avec la coupe du ruban bleu-blanc-rouge, la Marseillaise, enfin, il y a 10 000 cadeaux qui sont distribués aux enfants, enfin bon, il y a tout un esprit sportif, c'est d'ailleurs pour ça, et sportif évidemment,
Peut-on...
ça s'appelle la grande fête nationale de la moto.
Peut-on encore s'inscrire?
Oui, on peut s'inscrire, il reste encore jusqu'au 15 juin, il reste à peu près, là on a passé la barrière des 100 pilotes, donc ce qui est exceptionnel, et il reste 25, une petite trentaine de places encore avant qu'on annonce complet.
D'accord, dans les différentes catégories proposées. Et au niveau tarif, c'est vrai que c'est accessible?
Tarif spectateur
ou le tarif pilote, parce que pour les gens qui aimeraient tenter l'expérience.
Oui, c'est accessible parce que c'est 170 € l'engagement avec une garantie de roulage exceptionnelle parce qu'on fait en sorte qu'ils puissent rouler beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a les essais libres, les essais qualifs, il y a des repêchages, il y a de super repêchages. Et puis pour ceux qui ne peuvent pas accéder à la finale, on va prendre je crois que c'est les 6, hein, c'est encore en discussion, les 6 non qualifiés de chaque catégorie. Qui eux, donc c'est-à-dire qu'ils vont être tous mélangés. Il y aura 6 pilotes de supermotard, 6 pilotes de X-Roadster, 6 pilotes d'Extreme Bike, donc quelque chose qui ne se fait pas généralement. Ils vont tous être mélangés et sur ce circuit mixte. Et on appelle ça la course, c'est la course fantastique. Donc ça veut dire que tout le monde va pouvoir rouler énormément. Et en termes de coûts, il faut savoir qu'un seul train de pneus suffit. C'est des pneus homologués route. Il suffit d'aller sur le site grandefetenationaledelamoto.com où dedans vous avez les formulaires d'inscription et les règlements.
Oui.
Et en termes de spectateurs, puisque c'est évidemment aussi important, il faut savoir que c'est à peu près, en réservant, c'est 17,50 € le week-end et qu'il n'y a aucune surprise à l'arrivée, c'est-à-dire que le paddock est ouvert, les parkings sont gratuits, toutes les animations sont gratuites.
Il y a toujours des tarifs pour les moins de 18 ans, du moins, je veux dire la gratuité,
oui,
c'est
oui,
ça
oui. La gratuité, oui, c'est unique en France en moto, la gratuité, c'est gratuit jusqu'à moins, pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, même s'ils ne sont pas accompagnés. Généralement, c'est gratuit jusqu'à 14 ou 16 ans, suivant les organisateurs, s'ils sont accompagnés. Là, à partir du moment où on a moins de 18 ans, on présente sa carte d'identité, on n'a pas besoin d'être accompagné avec un adulte qui, lui, a payé.
D'accord. Alors, on sera amené à reparler de ce fabuleux événement qui a de plus en plus de succès, parce que quand on voit comment il est relayé actuellement sur les réseaux sociaux, on se dit que le bouche à oreille, d'une certaine manière, fonctionne bien. Et c'est légitime, vu la qualité des prestations qui sont offertes pour un prix effectivement totalement accessible pour tout un week-end. Et tu vas faire un super cadeau aux auditeurs de Kikinkout et Toupal, parce que fin juin, il y aura donc la possibilité de gagner des entrées gratuites.
Oui, exactement. On va vous offrir des entrées gratuites. Je crois que c'est 12 ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Vous allez faire un petit jeu. Enfin, je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais donc effectivement, on va offrir des entrées gratuites à vos auditeurs. Et pour en revenir sur l'ampleur que prend cet événement, notamment grâce aux réseaux sociaux, écoutez, c'est vrai qu'on c'est un événement qui s'est construit en fait par les réseaux sociaux, évidemment par les médias qui relaient, mais l'important pour moi, c'est réellement et profondément, et on travaille là-dessus en permanence, les spectateurs qui sont, beaucoup d'organisateurs font bien leur travail, on n'est pas les seuls, hein, mais je veux dire, on a toujours tendance généralement un petit peu les oublier, à penser qu'ils vont venir d'eux-mêmes, sans vraiment les impliquer, et puis on s'aperçoit que les circuits sont vides, je parle des circuits de vitesse, hein, hormis le Grand Prix de France ou des énormes événements, les circuits de vitesse sont vides, et ça c'est parce que les spectateurs n'ont jamais été, je dirais, impliqués de telle façon, et donc voilà, pour nous c'est un aspect très 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 important. Il y a même des informations que l'on relaie sur les réseaux sociaux avant de les envoyer aux médias, c'est réellement pour montrer aux spectateurs que c'est eux qui nous intéressent, c'est à eux qu'on veut faire ce cadeau, et d'ailleurs tout est et c'est du low cost, hein, tout est, je veux dire, il y a les deux frères Chambon cette voilà. année par exemple, bon, les prix d'entrée ne sont imbattables, je dirais.
Tout à fait, et c'est, disons que la reconnaissance du public, elle sera payante forcément sur le long terme. Écoute, on te remercie énormément, Alain, et on te donne rendez-vous donc pour la fin juin, où on aura le grand plaisir de reparler à nouveau de la grande fête nationale de la moto X-Roadster. À très bientôt.
Merci beaucoup. Merci,
bon dimanche. Au revoir.
Merci, vous aussi. Au revoir.
Voilà, on va quelques petites infos motocross avec notre professionnel donc de cette discipline, Guy Pilarczyk au téléphone. Bonjour Guy.
Oui, bonjour, bonjour la Miche, merci pour le professionnel là.
Oui, bah écoute, on est tous professionnels. Voilà, alors, très vite, voilà. Guy, très vite.
Alors voilà, alors, c'est le 5 juin, c'est un motocross régional à Isberg, hein, c'est un annonceur sur notre calendrier. 250 pilotes au départ avec les catégories 90, MX2, Open, Prestige et une course pour les pilotes en herbe de l'école de conduite. La première course est à 10h, la finale à 17h et Isberg se trouve près de Hers-sur-la-Lys. L'entrée doit être à 5 euros. Aujourd'hui aussi, on va annoncer qu'il y avait le Grand Prix d'Espagne qui se déroule en Espagne, bien sûr, de motocross, le Grand Prix de motocross, et il sera en direct sur la chaîne 21, c'est la chaîne du journal L'Équipe. Alors la première manche, MXGP à 13h, la deuxième manche à 17h. Et seconde du provisoire, c'était le français, le champion en titre Romain Fèvre, qu'on avait interviewé, tu te rappelles, la Miche au Super.
Très bien, je m'en souviens très bien, Guy.
Hein? Alors il s'est blessé aux essais hier, alors je ne sais pas s'il sera au départ de l'épreuve, parce qu'il est, actuellement au provisoire, il est second. Le premier, c'est un Slovène qui s'appelle Gezer, qui a 335, et Romain Fèvre, 331, 4 points les séparent. Et aussi, un pilote qui revient en force, c'est l'Italien Antonio Caroli, qui a gagné le Grand Prix je crois, d'Allemagne, je crois. Depuis qu'elle a été voir le pape, qu'il l'a béni, écoute, il roule comme un...
Comme un dieu.
Oui, en effet.
Hein. Ça, c'est excellent. Mais alors, dépêche-toi, parce que Patrice me fait voir que t'étais passé à 2 minutes 15. T'avais que 2 minutes.
Ah, écoute, et après, il y a le Grand Prix de France aussi, le 5 juin, c'est la semaine prochaine. C'est le Grand Prix de France de motocross à Saint-Jean-d'Angély.
Ah oui, ça c'est dans en Mayenne.
Oui, voilà, qui se trouve...
C'est pas Mayenne, non, non, une erreur.
Non,
c'est pas...
se trouve entre...
Je dis des bêtises.
Écoute, la ville se trouve entre une ville d'eau, Cognac.
Cognac, oui, voilà. Cognac. Ouais, c'est moi qui l'ai. Hein. Non, je confonds avec l'autre circuit.
Ernée,
voilà, non, c'est mes erreurs. Voilà, bon, bah, ça arrive.
Voilà. Et puis, une petite question à Jonathan, là, qui a été au Paraguay. Est-ce qu'il a fait une partie de strip poker?
Non, j'ai jamais fait.
Bonne question, Guy.
Je ne mélange jamais les femmes et le poker.
Ah bon.
Voilà Guy, bah, t'as une réponse.
Pourquoi c'est uniquement féminin le strip poker?
Bah ah oui non, on va mettre entre hommes mais c'est quand même
mal. Très bien. Allez. Guy, voilà. Non, il n'a jamais fait. Allez. De strip poker Guy, ben voilà. Il y a Patrice Sam qui me demande de te couper, mais je ne sais pas où je peux te couper. Voilà. Bon.
Allez.
Bon dimanche.
C'est
Guy.
Pas vrai, Guy. Alors, voilà. Il dit des bêtises.
Et voilà. Bon, très bien. Patricia, on termine avec Jonathan. Oui. On lui donne le mot de la fin de cette émission. Il nous reste quelques minutes encore.
Oui.
Alors, c'est 2-3. Hein.
Oui, parce que pour ceux qui hésiteraient encore à acheter son livre, il faut absolument aller sur le blog.
Ouais.
Donc c'est
World Poker Trip. www.world comme le monde en anglais, poker comme poker et trip comme un voyage.
Et voilà. Vous aurez des extraits du livre.
Il y a des extraits gratuits du livre et vous voyez tout. Et il peut même aussi s'inscrire sur le Facebook. J'ai un Facebook qui s'appelle Jonathan Salamon-public, dans lequel je donne toutes les news et je raconte un peu mes états d'âme. Enfin, voilà quoi. Enfin, je parle un peu de tout ce qui se passe en ce moment, la sortie du livre, etc.
Et je peux témoigner, tu communiques très très facilement. On peut t'écrire.
Oui. Ah oui, moi je réponds à tout le monde. Hein. Moi je suis content. J'aime bien parler avec les gens. Donc
Il y a un vrai plaisir à partager. Là,
on peut le dire. On peut aller boire un coup avec lui parce qu'il est barman.
Là, on va peut-être pas faire de publicité.
Dans un bar. Nom du bar, mais
on le mettra en message privé.
De 23h à 6h. Malheureux, il a bossé jusqu'à 6h. Il s'est levé pour venir.
Ça, on doit te remercier.
C'est pas beau ça.
Jonathan.
Et puis tout à l'heure, tu avais des références aussi à Carnet de voyage.
Ouais.
C'est le Che. Donc, il voyageait en moto aussi.
Ouais.
En Amérique aussi.
Sud. Grande référence, quoi.
Norton, Dominator, et comment elle s'appelait cette moto?
La Vigoureuse.
Parce qu'il
la
il a, comme toi, ouais. il a donné un nom. C'est marrant que les motards donnent un nom à leur machine. Pourtant, c'est qu'un tas de ferraille, quand même, finalement. C'est pas un cheval, hein.
Non,
c'est pas
ça, une âme, ça a une âme.
Où est cette âme?
Rossi parle toujours à sa moto.
Ah oui, Rossi aussi, il parle à sa moto. Très bien. Oui, tu es fan de Valentino Rossi, Christine, c'est vrai.
Fan.
T'as remarqué qu'il parlait à sa moto,
oui,
effectivement.
Et moi, je conserverais.
Est-ce que c'est pas ridicule,
non,
finalement,
pas, non, non,
de,
non.
de parler à un tas de ferraille
Je parle à ma moto. Hein.
Toi, tu parles aussi à sa moto.
Moto.
Et moi, j'ai énormément de gratitude à Blanchette qui m'a sauvé la vie.
Ah oui, toi, c'est Blanchette, ouais. Toi. C'est incroyable. Non, mais c'est. Laurent, toi aussi, tu parles à ta moto.
Jolly jumper.
Voilà, ça coûte combien ton bouquin, Jonathan?
20 euros.
Ah ouais, c'est pas cher, hein, parce que il y a 400 pages et c'est un gros.
Ça fait 2 centimes la page.
Mais moi je l'ai payé 10
euros. Ouais, il joue au poker.
5 centimes, je crois. Ouais, j'ai plus.
Et si on revient un petit peu au poker, le plus d'argent que t'as gagné en une partie.
Oh là, dis donc.
Vraiment, où t'as gagné Argentine. Beaucoup d'argent?
C'était en Argentine.
Pardon, micro, vas-y.
Les impôts.
Non, mais c'est pas déclarable.
Ça se passait en Amérique du Sud.
Mais c'est en Amérique du Sud.
En Argentine, j'ai fait une partie incroyable chez des juges et. J'ai gagné 2500 euros cette nuit.
Non.
19 200 pesos, je me rappelle. Et ça faisait 2500 euros. Et le lendemain, je me suis acheté une GoPro et un ordinateur. Et c'est là que j'ai commencé justement à faire des vidéos sur mon blog.
2500 euros, voilà. T'as gagné.
Merci. C'est la plus grosse.
Mais c'est une nuit complète. Hein. C'est,
ah oui, c'est
si
de.
Si on fait un rapport.
22h à 6h du matin.
Oui, c'est ça, le temps. Sur quand même. Oui, 22h,
ça fait 8 heures de jeu.
Ça fait 8 heures de jeu. 8 heures de boulot, quoi.
Mais bon, après, c'est du plaisir.
C'est bien payé quand même.
Quand on aime le poker, quand on fait un truc qui nous passionne, on travaille jamais. C'est ce que je dis toujours.
D'accord.
Donc voilà.
Bon, écoute, super. Hein, vraiment, écoute, tout nous a bluffé aujourd'hui. Non, ouais, vraiment, franchement.
Voilà.
Très bien, Patricia, pour cette émission. Voilà. Voilà, ça se termine. Et c'est la fête des mères aujourd'hui. Mesdames, bonne fête. Hein, vous êtes tous mères, je crois.
Voilà. Oui, de mon village.
Vous êtes tous mères. Hein, voilà. Jonathan, merci d'être venu. Donc,
merci,
on peut être discuter avec toi de 23h à 6h les vendredis et samedis dans un bar.
Stairway. Je le dis.
Ouais.
Je travaille dans la discothèque.
C'est malin.
Voilà. Et puis on avait notre motard lecteur aujourd'hui qui est venu, mais on n'a pas eu le temps.
Non, mais il viendra. C'est ce qui est bien.
Voilà, très bien.
Mais j'avais posé la question. Hein. Allons-nous zapper le motard lecteur encore une fois?
On fera ça donc pour la toute dernière émission fin juin, Patricia, hein, parce qu'après on part en vacances, voilà. Et on se retrouvera forcément après octobre, fin septembre toujours. Voilà. Merci d'être venu. Merci Jonathan d'être levé. C'est super. C'est vraiment des gens comme toi. Ça devient très rare.
Il faut
les conserver, il faut les mettre dans le formol. Voilà. Merci Laurent.
Pas de problème, à votre service.
Au revoir, passez un bon dimanche.
Bon dimanche.
Au revoir. Dimanche.